Deuxième acte. Vandel se déclare. L'été et l'automne s'étaient écoulés. On arrivait à la Noël et à l'année nouvelle. Comme deux loyaux exécuteurs testamentaires, déterminés à remplir leurs devoirs envers le mort, Vandel et Bindray avaient retenu plus d'un conseil. L'homme de loi avait fait tout d'abord ressortir l'impossibilité matérielle de suivre aucune marche régulière. Tout ce qui pouvait être fait d'utile et de sensé pour découvrir le propriétaire légitime du bien qu'ils avaient entre les mains n'avait-il pas été fait par Whiting lui-même? Il résultait clairement de l'insuccès de ces différentes tentatives que le temps ou la mort n'avait laissé aucune trace de l'enfant adopté. À quoi bon continuer à faire des annonces si l'on ne voulait point entrer dans certaines particularités explicatives? Et si l'on y entrait, n'était-on pas sûr de voir arriver la moitié des imposteurs de l'Angleterre? Si nous trouvons quelque jour une chance, une occasion, disait Bintray, nous la saisirons aux cheveux, sinon... Eh bien, réunissons-nous pour une autre consultation au premier anniversaire de la mort de Wilding. Tel fut l'avis de l'homme d'affaires. C'est ainsi que Vandel, bien qu'animé du plus sérieux désir de remplir le vœu de l'ami qu'il avait perdu, fut contraint de laisser, pour le moment, dormir cette affaire. Abandonnant donc les intérêts du passé pour songer à ceux de l'avenir, le jeune homme voyait déjà devant ses yeux cet avenir de plus en plus incertain. Des mois s'étaient écoulés depuis sa première visite à Soho Square, et jusqu'alors, le seul langage dont il eût pu se servir pour faire comprendre à Marguerite qu'il l'aimait avait été celui des yeux, fortifié quelquefois d'un rapide serrement de main. Quel était donc l'obstacle qui s'opposait à l'avancement de ses espérances? Toujours le même, les occasions se présentaient en vain, et Vandel avait beau redoubler d'efforts pour arriver à causer seul à seul un moment avec Marguerite, toutes ces tentatives se terminaient par le même déboire et le même accident. À l'instant favorable, Obenreizer trouvait le moyen d'être là. Que faire? On était au dernier jour de l'année. Vandel crut avoir enfin rencontré un hasard propice et il se jura cette fois d'en profiter pour entretenir la jeune Suissesse. Il venait de recevoir un billet tout cordial d'Obenreizer qui le confiait à l'occasion du nouvel an à un petit dîner de famille dans Soho Square. « Nous ne serons que 4 convives, » disait la lettre. « Nous ne serons que 2, » se dit Vandel avec résolution. La nationalité du jour de l'an chez les Anglais consiste à donner à dîner ou à se rendre au dîner d'autrui, rien de plus. Au-delà du détroit, c'est la coutume en pareil jour que de donner et de recevoir des présents. Or, il est toujours possible d'acclimater une coutume étrangère, et Vandel n'hésita pas un instant à en faire l'essai. La seule difficulté fut pour lui de décider quel cadeau il allait faire à Marguerite. Si ce cadeau était trop riche, l'orgueil de cette jolie fille de paysan, qui sentait avec impatience l'inégalité de leurs conditions sociales à tous deux, en serait blessé. Un présent qu'un homme pauvre eût aussi bien pu faire que lui, parut à Vandel le seul qui fut capable de trouver le chemin du cœur de la Suissesse. Il résista donc fortement à la tentation que les diamants et les rubis faisaient naître devant ses yeux, et il fit l'emplette d'une broche en filigrane de gêne, l'ornement le plus simple qu'il eût pu découvrir dans la boutique de joaillier. Le jour du dîner, comme il entrait dans la maison de Soho Square, Marguerite vint au-devant de lui. Il glissa doucement son cadeau dans la main de la jeune fille. « C'est le premier jour de l'an que vous passez en Angleterre, » lui dit-il. « Voulez-vous me permettre d'imiter ce qui se fait à pareil jour dans votre pays ?» Elle le remercia, non sans un peu de contrainte, regardant l'écrin et ne sachant ce qu'il pouvait contenir. Lorsqu'elle l'eut ouvert et qu'elle vit la simplicité de cette offrande, elle devina sans peine l'intention du jeune homme, et se tournant vers lui, toute radieuse, son regard lui disait « Oh, pourquoi vous cacherais-je que vous avez su me plaire et me flatter ?» Vendale ne l'avait jamais trouvée si charmante qu'en ce moment, dans son costume d'hiver. Une jupe en soie de couleur sombre, un corsage de velours noir, montant jusqu'au cou et garni d'un duvet de cygne. Jamais il n'avait admiré si fort le contraste de ses cheveux noirs et de son teint éblouissant. Ce ne fut que lorsqu'elle le quitta pour s'approcher d'un miroir et substituer sa broche de filigrane à celle qu'elle portait auparavant, que Wendel s'aperçut de la présence des autres personnes assises dans la chambre. Les mains de Obenreizer prirent alors possession de ses coudes, et son hôte le remercia de l'attention qu'il avait eue pour Marguerite. Un présent d'une si grande simplicité témoigne chez celui qui l'a fait d'un tact bien délicat, dit-il d'un air presque imperceptible de raillerie. Wendel, en ce moment, s'aperçut qu'il y avait un autre invité que lui-même à ce repas de famille. Un seul invité, un seul. Obenreizer le lui présenta comme un compatriote et un ami. La figure de ce compatriote était insignifiante et morne. Le corps de cet ami était gros. Son âge, c'était l'automne de la vie. Dans le courant de la soirée, il eut l'occasion de développer deux talents ou deux capacités peu ordinaires. Personne ne savait mieux être muet. Personne ne vidait plus lestement les bouteilles que l'ami et le compatriote de Benheimer. Madame Dorn n'était point dans l'appartement. On ne manqua pas d'expliquer son absence. Il paraît que les habitudes de la bonne dame étaient si simples qu'elle ne dînait jamais qu'au milieu du jour. « Elle viendra s'excuser dans la soirée, » dit Obenreizer. Wendel se demanda si l'absence de Madame Dorn n'avait pas une autre raison que la simplicité de son goût. Il pensa qu'elle avait pour une fois interrompu ses occupations domestiques ordinaires, qui consistaient à nettoyer des gants et qu'elle daignait faire la cuisine. La vérité de cette supposition se manifesta dès les premiers plats qu'on servit et qui témoignaient d'un art culinaire bien supérieur à la cuisine anglaise élémentaire et brutale. Le dîner fut parfait. Quant au vin, les gros yeux toujours roulants du convive muet les célébraient avec éloquence et les convoitaient ravis en extase. Ils disaient un « bon » quand la bouteille arrivait pleine. Il soupirait un « oh » quand on la remportait vide. Ce fut là toute la somme d'esprit et de gaieté qu'il dépensa durant le repas. Le silence est parfois contagieux. Accablés par leurs soucis personnels, Marguerite et Wendel cédaient à ce bel exemple de mutisme. Tout le poids de la conversation retomba sur Obenreizer, qu'il accepta bravement. Il ouvrit et répandit son cœur. « Je suis un étranger éclairé, » dit-il. Et le voilà chantant les louanges de l'Angleterre. Et quand tous les autres sujets furent épuisés, il revint à cette source inépuisable, faisant toujours courir ce petit ruisseau avec la main. « Examinez cette nation anglaise. Quels hommes grands et robustes et propres. Considérez les villes. Quelle magnificence dans les édifices, quel ordre et quelle régularité dans les rues. Admirez leurs lois qui combinent l'éternel principe de la justice avec cet autre éternel principe du respect et de l'amour des livres, des shillings et des pence. Est-ce qu'en Angleterre, on n'applique point ce produit monnayé à toutes les injures civiles, depuis l'injure faite à l'honneur d'un homme jusqu'à l'injure faite à son nez? Vous avez séduit ma fille, alors, des pence, des shillings et des livres. Vous m'avez renversé et donné des orions, sur la face, des livres, des pence et des shillings. Après cela, je vous le demande, où la prospérité matérielle d'un tel pays pourrait-elle s'arrêter ? Benoît Heiser, plongeant du regard dans l'avenir, chercha vainement à entrevoir la fin de cette prospérité sans bornes. Son enthousiasme demanda la permission, suivant la mode anglaise, de s'exhaler dans un toast. « Voilà notre modeste dîner terminé !» s'écria-t-il. « Voilà notre frugal dessert sur la table. Voici l'admirateur de l'Angleterre qui se conforme aux habitudes anglaises et qui fait un speech, un toast à ces blanches falaises d'Albion, monsieur Vanel, un toast à vos vertus patriotiques, à votre heureux climat, à vos charmantes femmes, à vos foyers, à votre habeas corpus, à toutes les institutions, à l'Angleterre, hip 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 hooray !» À peine Obenreizer avait-il poussé cette dernière note du viva britannique, à peine l'ami muet avait-il savouré la dernière goutte contenue dans son verre, que le festin fut interrompu par un coup frappé à la porte. Une servante entra, apportant un billet à son maître. Obenreizer l'ouvrit, le lut, le tendit tout ouvert à son compatriote, avec une expression de contrariété visible. L'esprit engourdi de Vendel se réveilla tout à coup. Le jeune homme se mit à surveiller son hôte. Avait-il enfin trouvé un allié sous la forme de ce billet si mal accueilli par le Suisse? Le hasard si longtemps attendu se présentait-il enfin? Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de remède, dit Obenreizer à son compatriote, et que nous soyons forcés de sortir. L'ami muet lui rendit la lettre en levant les épaules et se versa une demi-rasade. Ses gros doigts s'enroulèrent avec tendresse autour du goulot de la bouteille, comme s'il voulait la presser amoureusement encore une fois avant que de lui dire adieu. Ses gros yeux considéraient Marguerite et Vendel comme à travers un brouillard. Il fit un terrible effort et une phrase entière sortit tout d'un trait de sa bouche. « Je crois, dit-il, que j'aurais désiré un peu plus de vin. » Après quoi le souffle lui manqua. Il respira convulsivement et se dirigea vers la porte. « Je suis blessé, confus et au désespoir de ce qui arrive, » dit Obenreizer à Vendel. « Un malheur est arrivé à l'un de mes compatriotes. Il est seul, mon ami que voilà, et moi. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous rendre auprès de lui et de le secourir. Que puis-je vous dire pour m'excuser? Comment vous dépeindre mon désappointement de me voir ainsi privé de l'honneur de votre compagnie ?» Il s'arrêta, avec l'espérance visible que Vendel allait prendre son chapeau et se retirer. Mais celui-ci croyait enfin avoir saisi l'occasion d'un tête-à-tête avec Marguerite. « Je vous en prie, dit-il, ne vous isolez pas si fort. J'attendrai ici votre retour avec le plus grand plaisir. » Marguerite rougit vivement et alla s'asseoir devant son métier à tapisserie dans l'embrasure de la croisée. Les yeux de Obenreizer se couvrirent de leurs nuages, un sourire quelque peu amer passa sur ses lèvres. Dire à Vendel qu'il n'espérait point rentrer de bonne heure, c'eût été risqué d'offenser un homme dont la bienveillance eût été d'une importance commerciale sérieuse. Il accepta donc sa défaite avec la meilleure grâce possible. À la bonne heure, s'écria-t-il, que de franchise, que d'amitié, comme c'est bien anglais, ça. Il s'agitait fort, ayant l'air de chercher autour de lui un objet dont il avait apparemment besoin. Il disparut un moment par la porte qui s'ouvrait sur la pièce voisine, revint avec son chapeau et son paletot, annonça qu'il rentrerait aussitôt qu'il le pourrait, pressa les coudes de Vendel et sortit avec l'ami muet. Wendel se retourna vers la fenêtre où Marguerite s'était assise. Là, comme s'il était tombé du plafond ou sorti du parquet, là, dans son attitude sempiternelle, le visage tourné vers le poêle, se trouvait un obstacle inattendu sous la forme de Madame Dor. Elle se souleva, regarda par-dessus sa large et plantureuse épaule et retomba comme une masse dure sur sa chaise. Travaillait-elle? Oui. À nettoyer les gants d'Oppenheimer? Non, à repriser ses bas. La situation devenait trop cruelle. Deux moyens se présentèrent à l'esprit de Wendel. Était-il possible de se défaire de Madame Dor et de la fourrer dans son poêle? Le poêle ne pourrait la contenir. Était-il possible de traiter la bonne dame non plus comme une personne vivante, mais comme un objet mobilier? Pouvait-on, avec un effort d'intelligence, arriver à la considérer, par exemple, comme une commode, et sa coiffure de gaze noire comme un objet qu'on aurait laissé traîner dessus par accident? Oui, on pouvait faire cet effort, et l'intelligent de Wendel le fit. Il alla prendre place dans l'enfoncement de la croisée, à l'ancienne mode, tout près de Marguerite et de son métier. La commode fit un léger mouvement, mais ne le fit suivre d'aucune observation. Rappelez-vous ici qu'un gros meuble est difficile à remuer. Plus silencieuse et plus contrainte qu'à l'ordinaire, Marguerite était émue. Ses belles couleurs s'effacèrent de ses joues. Une énergie fiévreuse courut dans ses doigts. La jeune fille se pencha sur sa broderie, travaillant avec autant d'activité que si elle travaillait pour vivre. Wendel n'était guère moins agité. Il sentait combien de ménagements il fallait prendre pour amener doucement Marguerite à écouter son aveu et à lui en faire un autre en échange. L'amour d'une jeune fille est chose délicate qu'il ne faut point traiter brusquement. Aussi Wendel essaya-t-il d'abord d'un système d'approche graduelle. Il prit des détours et écouta d'un air soumis la voix qui, tout bas, l'avertissait d'être plus circonspect. Adroitement, il ramena le mémoire de Marguerite vers le passé, vers l'époque de leur première rencontre, lorsqu'ils voyageaient en Suisse. Ils firent ainsi revivre entre eux les sensations d'autrefois et les souvenirs de cet heureux temps qui n'était plus. Peu à peu, la contrainte de Marguerite se dissipa. Elle sourit, elle écouta Wendel. Elle lui souriait, son aiguille devenait paresseuse. Elle fit plus d'un faux point dans son ouvrage. Cependant, les deux jeunes gens se parlaient de plus en plus ouvertement à voix basse, leurs deux visages se penchaient l'un vers l'autre. Madame Dor se conduisit comme un ange. Pas une seule fois elle ne se retourna ni ne souffla un mot. Elle continuait à se débattre avec les bas d'Obermeiser, les tenant serrés sous son bras gauche et levant le bras droit vers le ciel. Il y eut pour les amoureux de délicieux et indescriptibles moments où Madame Dor paraissait vraiment être assise sans dessus-dessous, et de plus, ne plus contempler que ses jambes, ses propres respectables jambes qui s'agitaient en l'air. Ces mouvements ascensionnels se succédaient, mais plus lentement, à mesure que les minutes s'écoulaient. En même temps, sur la tête de Madame Dor, la gaze noire se balançait, tombait en avant, revenait en arrière. Un paquet de bas s'échappa des genoux de la bonne dame et demeura sur le parquet. Un énorme peloton de laine suivit les bas et s'en alla rouler sur la table. La coiffure de gaz entra de nouveau en danse. Un son étrange, qui ressemblait un peu au miaulement d'un gros chat, un peu au cri d'une planche de bois tendre qu'on rabote, s'éleva au-dessus des chuchotements de nos deux amoureux. C'est que la nature et Madame Dor s'étaient entretenues ensemble pour le plus grand bonheur de Wendel, la vieille Suissesse, la meilleure des femmes dormait. Marguerite se leva pour l'arracher aux douceurs de ce repos d'occasion. Vindal retint la jeune fille par le bras et la repoussa doucement vers sa chaise. « Ne la dérangez pas, murmura-t-il. J'ai longtemps attendu le moment de vous dire un secret. Laissez-moi parler enfin. » Marguerite reprit sa place. Elle essaya de reprendre ses aiguilles, mais ses yeux étaient couverts d'un voile et sa main tremblait. « Nous rappelions tout à l'heure, dit Vindal, cet heureux temps où nous nous sommes rencontrés et où, pour la première fois, nous avons voyagé ensemble. Oh, j'ai un aveu à vous faire, Marguerite. Je vous ai caché quelque chose. Lorsque plus tard je vous parlais de ce premier voyage, je vous fis part de toutes les impressions que j'avais rapportées en Angleterre, une seule exceptée. Pouvez-vous deviner quelle était cette impression qui effaçait toutes les autres ? Les yeux de Marguerite demeurèrent fixés sur sa broderie. Elle détourna son visage. De grands signes de trouble commencèrent à se manifester sur son chaste corsage de velours noir. Non loin des blanches régions dont la broche de filigrane fermait le passage. Elle ne répondit pas un mot. Et cependant, Vanda insistait sans pitié pour obtenir une réponse. « Cette impression que je rapportais de Suisse, dit-il, quelle était-elle? Ne pouvez-vous la deviner ?» Cette fois, elle tourna les yeux vers lui. Un faible sourire effleurait ses lèvres. Oh, « L'impression de la beauté des montagnes, je pense, dit-elle. » « Non, 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 une émotion bien plus précieuse que celle-là. »« De la beauté des lacs, alors ?»« Non, les lacs me sont devenus plus chers parce qu'ils me rappellent cette émotion qu'aucun mot ne peut rendre. J'aime les lacs. » Mais leur beauté n'est pas si étroitement liée à mon bonheur dans le présent et à mes espérances d'avenir. C'est de vous que ce bonheur dépend. Vous seul pouvez me rendre la vie aimable et belle, Marguerite, par un mot tombé de vos lèvres. Je vous aime. Le front de Marguerite se pencha lorsque Vindal lui prit la main. Il attira la jeune fille vers lui et la regarda. Des larmes s'échappaient de ses beaux yeux célestes et roulaient doucement sur ses joues polies. « Ah, monsieur Vindal, dit-elle tristement, il eût été bien mieux de garder votre secret. Avez-vous oublié la distance qui est entre nous? Ce que vous dites ne peut jamais, jamais être. » « Mais il ne peut y avoir de distance entre nous que celle que vous creuserez vous-même, Marguerite, en ne m'aimant point lorsque je vous aime. Il n'y a pas de plus haut rang que le vôtre dans le royaume de la bonté et de la beauté. Dites-moi, Marguerite, et dites-moi tout bas ce seul petit mot que je vous demande et qui m'apprendra si vous voulez être ma femme. » Elle soupira. « Mais pensez à votre famille, murmura-t-elle, pensez à la mienne. » Vindal l'attira de plus près de son cœur. « Si vous vous laissez arrêter par un obstacle comme celui-là, dit-il, savez-vous ce que je croirais, Marguerite? C'est que je vous ai offensée. » Marguerite tressaillit. « Oh non, ne croyez pas cela, dit-elle. » Ces mots n'étaient pas encore sortis de ses lèvres qu'elle comprit le sens que Vindal ne pouvait manquer de leur donner. Son aveu lui avait échappé malgré elle. Une rougeur charmante couvrit son visage. Elle fit un effort pour se dégager de l'embrassement du jeune homme. Elle le regardait d'un air suppliant. Elle essaya de parler, mais sa voix expira sur ses lèvres dans un baiser qu'il venait d'y imprimer. « Laissez-moi, dit-elle, laissez-moi me retirer, monsieur Vindal. Appelez-moi Georges. Marguerite laissa la tête du jeune homme se reposer sur son sein. Son cœur enfin s'élançait vers lui. « Georges, murmura-t-elle, dites-moi que vous m'aimez. » Ses bras enlacèrent le cou de Georges, sa bouche toucha la joue brûlante du jeune homme, et elle murmura ces mots délicieux « Oui, je vous aime. » Il y eut un moment de silence, bientôt troublé par le bruit de la porte de la maison qui s'ouvrait et se refermait. Ce bruit arriva par bonheur aux oreilles distraites des deux amants dans le silence de cette soirée d'hiver, et Marguerite se leva en sursaut. « Laissez-moi partir, dit-elle, c'est lui. » Elle sortit précipitamment de la chambre et toucha en passant l'épaule de Madame Dor. La bonne dame s'éveilla avec un ronflement terrible, regarda par-dessus son épaule gauche, par-dessus son épaule droite, plia sur ses genoux. Elle n'y découvrit ni bas, ni laine, ni aiguille. Cependant, les pas d'Obenreizer retentissaient dans l'escalier. « Mon Dieu !» dit Madame Dor, s'adressant au poêle. Vandal ramassa les bas et le peloton et jeta le tout à Madame Dor. « Mon Dieu » répéta-t-elle, tandis que cette avalanche s'engloutissait dans son vaste giron. La porte s'ouvrit. Obenreizer entra. Du premier coup d'œil, il vit que Marguerite était absente. « Mais quoi ? » s'écria-t-il, « ma nièce s'est retirée ? Ma nièce n'est point restée pour vous faire compagnie, monsieur Vandal. C'est impardonnable, je vais la ramener. » Vandal l'arrêta. « Oh, ne dérangez pas, mademoiselle Obenreizer, dit-il. « Je vois que vous êtes revenue sans votre ami. » Oui, il est resté auprès de notre compatriote pour le consoler. Oh, une scène a déchiré le cœur, monsieur Vandal. Les pénates au Mont-de-Piété. Toute une famille plongée dans les larmes. Nous nous sommes tous embrassés en silence. Mon ami était le seul qui fut resté maître de lui. Là-dessus, il envoya chercher du vin. « Puis-je vous dire un mot en particulier, monsieur Orenheimer ?» lui demanda Vendel. « Oh, assurément !» Obenreizer se tourna vers Madame Dor. « Bonne et chère créature, vous succombez au besoin de repos, lui dit-il. Monsieur Vendel vous excusera. » Madame Dor se mit en route et n'accomplit pas, sans peine, le grand voyage du poêle à son lit. Chemin faisant, elle laissa tomber un bas. Vendel le ramassa et ouvrit la porte à la bonne dame. Elle fit un pas en avant. Voilà encore un bas par terre. Vendel se baissa de nouveau et Obenreizer intervint avec force excuse, tout en lançant à la vieille Suissesse certains regards qui acheva de la mettre en désordre. Cette fois, tous les bas roulèrent ensemble sur le parquet. Et frappée d'épouvante, Madame Dor s'enfuit, tandis qu'Obenreizer balayait des deux mains tout le parquet avec fureur. « Madame Dor !» s'écria-t-il. « Mon Dieu !» On entendit un sifflement dans l'air et Madame Dor disparut sous une grêle de bas. Obenreizer ne se possédait plus. « Oh, que devez-vous penser, monsieur Vandal ? » s'écria-t-il, « de ce déplorable empiétement des détails domestiques dans ma maison ?» Quant à moi, j'en rougis vraiment. Oh, nous commençons mal la nouvelle année. Tout a été de travers ce soir. Asseyez-vous, je vous prie, dites-moi ce que je puis vous offrir. Ne prouverons-nous point ensemble votre respect à une de nos grandes institutions anglaises? Ma foi, mon étude à moi, toute mon étude, c'est d'être un joyeux compagnon. Je vous propose un grog. Vendel déclina le grog avec tout le respect voulu pour cette grande institution, ironiquement célébrée par Obenreizer. « Non, je désire vous parler d'une chose qui m'intéresse plus qu'une autre au monde, » reprit-il. « Vous avez pu remarquer, dès les premiers moments où nous nous sommes rencontrés, l'admiration que m'a inspirée votre charmante nièce. Bon, vous êtes bon, monsieur Vendel, au nom de ma nièce. » « Je vous remercie. Peut-être avez-vous aussi observé, dans ces derniers temps, que mon admiration pour Mademoiselle Obenreizer s'était changée en un sentiment plus profond, plus tendre. L'appellerons-nous le sentiment de l'amitié, monsieur Vandal? Non, donnez-lui le nom d'amour, et vous serez plus près de la vérité. Obenreizer fit un bond hors de son fauteuil. Le battement étrange à peine perceptible qui était chez lui le plus sûr indice d'une prochaine colère se fit voir sur ses joues. Mais vous êtes le tuteur de Mademoiselle Marguerite, continua Wendel. Je vous demande de m'accorder la plus grande des faveurs, la main de votre nièce. Obenreizer retomba sur sa chaise. Monsieur Vendal, dit-il, vous me pétrifiez. J'attendrai, dit Vendal, j'attendrai que vous soyez remis. Bon, murmura Oppenheimer, un mot avant que je redevienne à moi. Vous ne l'avez rien dit de tout ceci à ma nièce. J'ai ouvert mon cœur tout entier à Mademoiselle Marguerite. J'ai lieu d'espérer. Quoi? S'écria Obenreizer. Vous avez fait une pareille demande à ma nièce sans avoir pris mon consentement. Vous avez fait cela? Il frappa violemment sur la table et pour la première fois perdit toute puissance sur lui-même. Mais quelle conduite est la vôtre? S'écria-t-il. Et comment, d'homme d'honneur à homme d'honneur, pourriez-vous la justifier? Ma justification est bien simple, repartit Vandal sans se troubler. C'est là une de nos coutumes anglaises. Or, vous professez une grande admiration pour les institutions et les habitudes de l'Angleterre. Je ne puis honnêtement vous dire que je regrette ce que j'ai fait. Je me dois seulement à moi-même de vous assurer que dans cette affaire, je n'ai pas agi avec l'intention de vous manquer de respect. Celui établi, puis-je vous prier de me dire franchement quelle objection vous vous élevez contre ma demande? Quelle objection? Dit Obenreizer. Mais c'est que ma nièce et vous n'êtes pas de la même classe. Il y a inégalité sociale. Ma nièce est la fille d'un paysan, vous êtes le fils d'un gentleman. Vous me faites beaucoup d'honneur, reprit-il. En revenant peu à peu à la politesse obséquieuse dont il ne s'était jamais départi avant ce jour, un honneur qui ne mérite pas moins que toute ma reconnaissance. Mais, je vous le dis, l'inégalité est trop manifeste et de votre part, le sacrifice serait trop grand. Vous autres Anglais, vous êtes une nation orgueilleuse. J'ai assez vécu dans ce pays pour savoir qu'un mariage comme celui que vous me proposez serait un scandale. Pas une main ne souffrirait devant votre paysanne de femme, et tous vos amis vous abandonneraient. Un instant, dit Vandal, l'interrompant à son tour. Je puis bien prétendre en savoir autant sur mes compatriotes en général et sur mes amis en particulier que vous-même. Aux yeux de tous ceux dont l'opinion a quelque prix pour moi, ma femme même serait la meilleure explication de mon mariage. Si je ne me sentais pas bien sûr, remarquez que je dis bien sûr d'offrir à Mademoiselle Marguerite une situation qu'elle puisse accepter sans s'exposer à aucune humiliation, entendez-vous bien, aucune, je ne demanderai pas sa main. Y a-t-il un autre obstacle que celui-là? Avez-vous à me faire une autre objection qui me soit personnelle? Obenreizer lui tendit ses deux mains en forme de protestation courtoise. Une objection qui vous soit personnelle, dit-il, cher monsieur. Cette seule question est bien pénible pour moi. Bon, dit Vandal, nous sommes tous deux des gens d'affaires. Vous vous attendez naturellement à me voir justifier devant vos yeux de mes moyens d'existence. Je puis vous expliquer l'état de ma fortune en trois mots. J'ai hérité de mes parents 20 000 livres. Pour la moitié de cette somme, je n'ai qu'un intérêt viager qui, si je meurs, sera réversible sur ma veuve. Si je laisse des enfants, le capital en sera partagé entre eux quand ils seront majeurs. L'autre moitié de mon bien est à ma libre disposition. Je l'ai placée dans notre maison de commerce que je vois prospérer chaque jour. Cependant, je ne puis en évaluer aujourd'hui les bénéfices à plus de 1 200 livres par an. Joignez à cela ma rente viagère, c'est un total de 1 500 livres. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet contre moi? Bobenheiser se leva, fit un tour dans la chambre. Il ne savait absolument plus que dire ni que faire. Avant que je réponde à votre dernière question, dit-il, après un petit examen discret de lui-même, je vous demande la permission de retourner pour un moment auprès de Mademoiselle Obenreizer. J'ai conclu d'un mot que vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle répondrait à vos sentiments. Oui, c'est vrai, dit Vandal, j'ai l'inexprimable bonheur de savoir qu'elle m'aime. Obenreizer demeura longtemps silencieux. Le nuage couvrit ses prunelles, le battement imperceptible agita ses joues. Bon, excusez-moi quelques minutes, dit-il avec sa politesse cérémonieuse, je voudrais parler à ma nièce. Puis il salua Vandal et quitta la chambre. Puis il salua Vandel et quitta la chambre. Vandel, demeuré seul, se mit à rechercher la cause de ce refus inattendu qu'il rencontrait. Obenreizer l'avait constamment empêché depuis quelques mois de faire sa cour à Marguerite. Maintenant, il s'opposait à un mariage si avantageux pour sa nièce que son esprit ingénieux même ne pouvait trouver à l'encontre aucune raison sérieuse. Incompréhensible conduite que celle d'Obenreizer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pour se l'expliquer à lui-même, Vandal descendit au fond des choses. Il se souvint qu'Obenreizer était un homme de son âge et que Marguerite n'était sa nièce qu'à demi. Avec la prompte jalousie des amants, il se demanda s'il n'avait pas en même temps devant lui un rival à redouter et un tuteur à conquérir. Cette pensée ne fit que traverser son esprit, ce fut tout. La sensation du baiser de Marguerite qui brûlait encore sa joue lui rappela qu'un mouvement de jalousie, même passagère, était maintenant un outrage envers la jeune fille. En y réfléchissant bien, on pouvait croire qu'un motif personnel et d'un tout autre genre dictait à Obenreizer une conduite si surprenante. La grâce et la beauté de Marguerite étaient de précieux ornements pour ce petit ménage. Elle donnait du charme et de l'importance à la maison, des armes à Obenreizer pour subjuguer ce dont il avait besoin, une certaine influence sur laquelle il pouvait toujours compter pour donner de l'attrait au logis dont il pouvait user pour son intérieur. Était-il homme à renoncer à tout cela sans compensation? Une alliance avec Vandal lui offrait sans doute certains avantages très sérieux. Mais il y avait à Londres des centaines d'hommes plus puissants, plus accrédités que Georges, et peut-être avait-il placé son ambition et ses espérances plus haut. À ce moment même où cette dernière question traversait l'esprit des Vandal, Obenreizer reparut pour y répondre ou pour n'y point répondre. Ainsi que la suite de ce récit va le démontrer. Il s'était fait un grand changement dans l'attitude et dans toute la personne d'Obenreizer. Ses manières étaient bien moins assurées. Il y avait autour de ses lèvres tremblantes des signes manifestes d'un trouble profond et violent. Venait-il de dire quelque chose qui avait fait entrer le cœur de Marguerite en révolte? Venait-il de se heurter contre la volonté bien déterminée de la jeune fille? Peut-être oui, peut-être que non. Sûrement, il avait l'air d'un homme rebuté et désespéré de l'être. « J'ai parlé à ma nièce, dit-il, monsieur Vandal. L'empire que vous exercez sur son esprit ne l'a pas entièrement aveuglé sur les inconvénients sociaux de ce mariage. » « Mais puis-je vous demander, s'écria Vandal, si c'est là le seul résultat de votre entrevue avec mademoiselle Marguerite ?» Un éclair jaillit des yeux d'Obenreizer à travers le nuage. « Oh, vous êtes le maître de la situation, répondit-il d'un ton de soumission ironique. La volonté de ma nièce et la mienne avaient coutume de n'en faire qu'une. Vous êtes venu vous placer entre mademoiselle Marguerite et moi. Sa volonté à présent est la vôtre. Dans mon pays, nous savons quand nous sommes battus et nous nous rendons avec grâce à de certaines conditions. Revenons à l'exposé de votre fortune. Ce que je trouve à objecter contre vous, c'est une chose renversante et bien audacieuse pour un homme de ma condition parlant à un homme de la vôtre. Et quelle est cette chose renversante? Vous m'avez fait l'honneur de me demander la main de ma nièce. Pour le moment, avec l'expression la plus vive de ma reconnaissance et de mes plus profonds respects, je décline cet honneur. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez riche. Ainsi qu'Obenreizer l'avait prévu, Vandal demeura frappé de surprise. Il était muet. Votre revenu est de 1500 livres, poursuivit Obenreizer. Dans ma misérable patrie, je tomberai à genoux devant ces 1500 livres, et je m'écrierai que c'est une fortune princière. Mais dans l'opulente Angleterre, je dis que c'est une modeste indépendance, rien de plus. Peut-être serait-elle suffisante pour une femme de votre rang, qui n'aurait point de préjugés à vaincre. Ce n'est pas assez de moitié pour une femme obscurément née, pour une étrangère qui verrait toute la société en armes contre elle. Si ma nièce doit jamais vous épouser, il lui faudra vraiment accomplir les travaux d'Hercule pour arriver à conquérir son rang dans le monde. Ce n'est peut-être pas là votre manière de voir, mais c'est la mienne. Je demande que ces travaux d'Hercule soient rendus aussi doux que possible à mademoiselle Marguerite. Dites-moi, monsieur Vandal, avez-vous 1500 livres? Votre femme pourrait-elle avoir une maison dans un quartier à la mode? Un valet de pied pour ouvrir sa porte? Un sommelier pour verser le vin à sa table? Une voiture, des chevaux et le reste? Ah, je vois la réponse sur votre figure. Elle me dit non. Très bien. Un mot encore et je finis. Prenez la généralité des Anglaises, vos compatriotes, d'une éducation soignée et d'une grâce accomplie. N'est-il pas vrai qu'à leurs yeux, la dame qui a maison dans un quartier à la mode, valet de pied pour ouvrir sa porte, sommelier pour servir à sa table, voiture à la remise, chevaux à l'écurie, n'est-il pas vrai que cette dame a déjà gagné 4 échelons dans l'estime de ses semblables? Cela n'est-il pas vrai, oui ou non? Arrivez au but, dit Vandal. Vous envisagez tout ceci comme une question d'argent. Quel est votre prix? Le plus bas prix auquel vous puissiez pouvoir pourvoir votre femme de tous les avantages que je viens d'énumérer et lui faire monter les 4 échelons dont il s'agit. Doublez votre revenu, monsieur Vandal. On ne peut vivre à moins en Angleterre avec la plus stricte économie. Vous disiez tout à l'heure que vous espériez beaucoup augmenter la valeur de votre maison. À l'œuvre, augmentez-la, cette valeur. Je suis bon diable, après tout. Le jour où vous me prouverez que votre revenu est arrivé au chiffre de 3000 livres, demandez-moi la main de ma nièce, elle est à vous. Avez-vous fait part de cet arrangement, mademoiselle Obenreizer, dit Vandal. Oh, certainement, oui, elle a encore un petit reste d'égard pour moi, monsieur Vandal. Elle accepte mes conditions. En d'autres termes, elle se soumet aux vues de son tuteur, qui la gardera sur le chemin du bonheur avec la supériorité d'expérience qu'il a acquise dans la vie. Puis il se jeta dans un fauteuil. Il était rentré en pleine possession de sa joyeuse humeur. Envisageant la situation, cette fois, il s'en croyait bien le maître. Une franche revendication de ses intérêts, une protestation vive et nette parut à Vandal inutile, au moins en cet instant. Il n'en pouvait espérer rien de bon alors. Aussi se trouva-t-il muet, sans raison aucune pour s'y appuyer et pour se défendre. Ou les objections de Bonnreiser étaient le simple résultat de sa manière de voir en cette occasion, ou bien il différait le mariage dans l'espoir de le rompre avec le temps. Dans cette alternative, Vendal jugea que toute résistance serait vaine. Il n'y avait pas d'autre remède à ce grand malheur que de se rendre en mettant les meilleurs procédés de son côté. « Je proteste contre les conditions que vous m'imposez, » dit-il. « Naturellement, » fit Obenreizer. « J'ose dire qu'à votre place, je protesterai tout comme vous. » « Et pourtant, » reprit Vandal, « j'accepte votre prix. Va pour 3 000 livres. » « Dans ce cas, me sera-t-il permis de faire 2 conditions à mon tour ?»« D'abord, j'espère qu'il me sera permis de voir votre nièce. »« Oh, oh ! Voir ma nièce, c'est-à-dire lui inspirer autant d'impatience de se marier que vous en ressentez vous-même ?» Bon, supposant que je vous dise non, cela ne vous sera point permis. Vous chercheriez peut-être à voir Mademoiselle Marguerite sans ma permission. Ah oui, très résolument. Admirable franchise, voilà encore qui est délicieusement anglais. Vous verrez donc Mademoiselle Marguerite à de certains jours, quand nous aurons pris rendez-vous ensemble. Votre seconde condition ? Votre manière de penser relativement à l'insuffisance de mon revenu m'a causé un grand étonnement, continua Vandal. Je désire d'être assuré contre le retour de cet étonnement et de sa cause. Vos idées actuelles sur les qualités désirables chez le mari de votre nièce peuvent encore se modifier. Vous exigez de moi aujourd'hui un revenu de 3 000 livres. Puis-je être assuré que dans l'avenir, à mesure que votre expérience de l'Angleterre s'agrandira, vos désirs ne se monteront pas plus hauts ? En bon anglais, vous vous doutez de ma parole. Êtes-vous résolu à vous en lier à la mienne quand je viendrai vous dire « j'ai doublé mon revenu » ? Si je ne me trompe, vous m'avez averti tout à l'heure que je devrais vous en fournir des preuves authentiques. « Bien joué, monsieur Vandal. Vous savez allier la vivacité étrangère avec la gravité anglaise. Recevez mes compliments. Voulez-vous aussi accepter ma parole écrite ?» Il se leva, s'assit devant un pupitre placé sur une table, écrivit quelques lignes et présenta le papier à Vandal avec un profond salut. L'engagement qu'il venait de prendre était parfaitement explicite, signé, daté avec soin. « Êtes-vous satisfait de cette garantie ?» demanda-t-il. « Oui, très satisfait. Mais je suis charmé de vous entendre me le dire. Ah, nous venons d'avoir notre petit assaut. En vérité, nous avons développé prodigieusement l'adresse des deux côtés. Mais voilà nos affaires arrangées pour le moment. » « Je n'ai pas de rancune, vous n'en avez pas davantage. Allons, monsieur Vandal, une bonne poignée de main à l'anglaise. » Vandal tendit la main, bien qu'un peu étourdi de ce passage subi chez Obenreizer d'une humeur à une autre. « Quand puis-je espérer de revoir mademoiselle Obenreizer ?» demanda-t-il en se levant pour se retirer. « Bien, faites-moi l'honneur de me rendre visite demain même, » dit Obenreizer, « et nous réglerons cela ensemble. Et prenez donc un grog avant de partir. Non. Bien, bien, nous réserverons le grog pour le jour où vous aurez vos 3000 livres de revenus et serez prêt d'être marié. Ah, quand cela sera-t-il? Ben, j'ai fait, il y a quelques mois, un inventaire de ma maison. Si les espérances que cet inventaire me donne se réalisent, j'aurai doublé mon revenu. Et vous serez marié, interrompit Obenheizer. Et je serai marié dans un an. Bonsoir.